À quel moment une jeune entreprise portée par l'hypercroissance commence-t-elle à changer de nature? Et quels effets cela peut-il produire sur ses politiques de responsabilité sociale? À quel moment les intentions laissent-elles place au process et la liberté s'encadre-t-elle de règles? C'est souvent à ce stade qu'une tension surgit entre, d'une part, la volonté de formaliser ce qu'il est de soi, comme les valeurs, les engagements, la responsabilité, et d'autre part, l'intention de ne pas brider l'innovation. Et une question devient centrale. Comment structurer une démarche RSE dans une entreprise en hypercroissance, sans affecter sa capacité d'innovation? Pour comprendre ce basculement, j'ai réalisé mon mémoire dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance, Foodles, scale-up de la food tech devenue société à mission en 2023, et au sein de laquelle j'ai conduit une recherche qualitative à visée comparative en la mettant en perspective avec deux autres entreprises à des stades de maturité différentes. D'un côté, Kitok, une jeune pousse de la restauration livrée qui pose les fondations de sa structuration, tout comme Foodles. De l'autre, Alan, une licorne valorisée à plus d'1 milliard d'euros qui a déjà traversé cette phase d'hypercroissance. Dans les trois entreprises étudiées, la RSE apparaît comme un mouvement interne qui accompagne la croissance et révèle les tensions liées au changement. Malgré leur trajectoire controversée, la RSE leur sert de fil conducteur en révélant tant d'une dynamique d'innovation que de structuration, avec comme enjeu leur coexistence à terme. Mobilisant un cadre théorique mêlant analyse des structures organisationnelles et capacité dynamique, nous avons montré que, pour que la RSE reste porteuse d'innovation dans un contexte de forte croissance, plusieurs conditions apparaissent essentielles. La première consiste à éviter l'isolement de la fonction RSE, en s'appuyant sur un réseau de relais internes ancrés dans les métiers. Ces ambassadeurs permettent de relier les enjeux de durabilité aux décisions opérationnelles et de faire circuler, entre le niveau opérationnel et stratégique, les signaux faibles comme les attentes sociétales. La seconde consiste à instaurer des temps collectifs de réflexion où les équipes relient leur mission aux engagements de l'entreprise. Ces espaces entretiennent la cohérence du projet d'ensemble et soutiennent la dynamique d'innovation que pourrait prolonger un budget participatif alloué aux initiatives proposées par les collaborateurs. Enfin, la structuration de la fonction RSE doit être pensée comme un processus évolutif. Un comité de mission actif peut par exemple incarner cette gouvernance apprenante, lieu de dialogue où se construisent les compromis entre les perspectives économiques, sociales et environnementales. Ces conditions rejoignent les enseignements de la littérature. Chez Mintzberg, la structure est un équilibre mouvant entre centralisation et autonomie. Greiner montre que la croissance n'est pas linéaire, mais rythmée par des crises internes qui appellent des réinventions. Pour Thys, la durabilité d'une organisation repose sur sa capacité à faire de sa structure une ressource stratégique. Ainsi, lorsque l'entreprise passe d'une structure organisationnelle simple à une structure plus complexe, la formalisation de ces processus RSE ne conduit pas nécessairement à étouffer leur potentiel d'innovation, à condition de penser cette structuration comme un processus vivant. La tension entre structuration et innovation constitue ainsi le cadre dans lequel se conçoivent les pratiques RSE d'une entreprise en hypercroissance. Si organiser, c'est arbitrer entre ce qui doit être stabilisé et ce qui doit rester flexible, notre étude souligne que la RSE agit comme un révélateur des arbitrages organisationnels au cœur de la gouvernance de l'entreprise, qui renvoie à une question fondamentale politique: quels enjeux accèdent à la formalisation, lesquels restent relégués aux marges de l'entreprise et qui décide de ce qui compte dans l'organisation?